Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Léonard de Vinci est pour tous le peintre de la célébrissime Joconde. On sait que l'œuvre fut apportée par l'artiste en France après son invitation à séjourner à Amboise. François Ier tenait à faire de l'artiste le fleuron de son règne, placé sous le signe de l'art et de la beauté. Léonard de Vinci en France, c'est cette dernière partie de la vie de l'artiste toscan que je vous propose de raconter aujourd'hui dans un épisode en deux parties. Première partie, le voyage de la Joconde. La petite troupe de cavaliers s'est arrêtée pour contempler le paysage. En cette fin d'automne 1515, l'hiver approche. Le froid n'est pas intense, mais on est en haute montagne et l'air est vif. La vallée de Montgenèvre, qui s'étend à leurs yeux, est entourée de sommets enneigés de cette région des Hautes-Alpes qui étincelle sous le soleil de midi. L'escorte qui accompagne Léonard de Vinci met pied à terre. On vérifie le chargement des mules. Elles contiennent toute la vie de l'artiste italien et surtout ses plus précieuses peintures. Parmi elles, il y a une certaine Mona Lisa, à laquelle il tient particulièrement. Léonard, lui, est resté en selle malgré la fatigue. Il observe longuement le ciel, ce bleu profond, épais, presque palpable, et signe qu'on a gagné les hautes altitudes. À 63 ans, Léonard de Vinci sent sa santé décliner. François Ier l'a invité à séjourner en France. Il a l'intuition qu'il va y passer ses dernières années. Ce ciel de haute montagne lui paraît un présage. Il semble touché au grand silence des étoiles et de l'éternité. Les hommes que le roi de France a chargés de l'accompagner pour traverser les Alpes ont été saisis par son allure hors du commun. Sa taille rivalise avec celle de François Ier. De grands yeux qui semblent plonger dans une rêverie sans fin. Une longue barbe blanche courant sur des joues creuses, et cette expression à la fois noble, désabusée, parfois ironique, qui apparaît sur ses lèvres lorsqu'il converse avec ses proches. En France, il n'est pas un étranger. Il a déjà été le peintre du roi Louis XII pendant 10 ans. Le tout nouveau François Ier a tout juste 21 ans. Il vient de se couvrir de gloire à la bataille de Marignan, qui le rend maître du Milanais, convoité de longue date par son père. En reprenant possession de ses terres, auxquelles il a droit par son origine Visconti, François ouvre grand les portes de la France à la Renaissance italienne. Il n'oublie pas qu'il est l'arrière-petit-fils de Valentine Visconti, fille du duc de Milan. Il aime passionnément cette terre italienne, il en aime passionnément les beaux-arts. Au lendemain de la victoire de Marignan, à peine a-t-il quitté le champ de bataille, jonché de 16 000 cadavres, qu'il se précipite à Milan pour voir un tableau de Léonard de Vinci, la scène. Il veut ce chef-d'œuvre. On pénètre dans l'église de Sainte-Marie-des-Grâces où il se trouve. 21 ans, et l'âge où l'on ose tout. Le sang de l'ennemi n'a pas encore séché sur ses bottes que François demande à faire arracher la peinture du mur où elle est encadrée. En vain. L'œuvre refuse de quitter le saint lieu qu'elle éclaire de sa mystérieuse et envoûtante beauté. Léonard de Vinci est présent lors de l'infructueuse tentative. Il semble qu'il ne soit pas associé de tout cœur à ce rapte, même s'il a donné son accord.
J'ai peine à comprendre que le plus savant architecte et mécanicien du pays, Léonard de Vinci lui-même, n'ait pas trouvé 4 moyens de transporter sa fresque, lui qui pouvait changer une église de place.
François Ier ne s'avoue pas vaincu. Léonard de Vinci a peint depuis des années des sujets religieux pour Louis XII, et bien François Ier a pour lui d'autres projets.
puisqu'aussi bien je ne puis emporter le chef-d'œuvre, je vais emmener le peintre qui l'a fait. Il en fera d'autres encore.
Léonard de Vinci promet de venir en France. Pour l'heure, il accompagne François Ier dans ses nouvelles possessions. On sait depuis longtemps en Italie qu'il peut tout faire, peintre et sculpteur. Il est aussi et surtout un ingénieur, spécialiste du détournement des cours d'eau et d'assèchement des marais. Constructeur de machines en tout genre et organisateur de fêtes. Pour François Ier, il va organiser une première mise en scène de festin à Pavie, en Lombardie. Pour étonner l'assistance, il conçoit un lion mécanique qui, une fois parvenu devant le roi, ouvre sa gueule et dépose à ses pieds une gerbe de fleurs de lys. La facilité avec laquelle Léonard de Vinci se rallie à François Ier a de nombreuses explications. D'un tempérament discret, peu enclin à l'esbroufe, il n'est pas homme à faire sa propre publicité. Au fil des ans, ceux de ses condisciples qui sont les plus ambitieux, notamment Michel-Ange et le jeune Raphaël, n'ont pas tardé à se placer bien en vue des Médicis, principaux mécènes d'Italie. Parmi eux, le pape Léon X est sans doute le plus généreux. Mais d'un caractère trop faible pour résister aux fortes têtes, il va rapidement oublier Léonard de Vinci, que son âge et sa modestie ne portent pas à se mettre en avant.
Ses talents d'artiste et de savant, si remarquables qu'ils fussent, ne purent faire reporter sur lui une portion suffisante que ses jeunes rivaux attiraient si puissamment sur eux. Le grand Léonard de Vinci fut obligé de céder la place au grand Michel-Ange et au grand Raphaël, par cela seul qu'il était vieux.
Lorsque François Ier surgit dans l'histoire, avec la soudaineté de la foudre, Léonard comprend que l'occasion lui est donnée de trouver enfin la paix que réclame son âge. Voici un roi jeune et généreux qui admire ses œuvres. Il l'invite à séjourner au cœur de la France, là où il n'aura à craindre ni les rivalités ni les tracasseries financières. Le roi le lui a assuré. Il pourra se consacrer entièrement à son art. De fait, il lui propose une rente de 1000 livres par an, une somme plus que confortable pour l'époque. Il lui attribue le château de Cloux, au Clos Lucé, à côté d'Amboise. Léonard de Vinci n'a pas hésité une seconde, le temps de rassembler ses affaires, et il se met en route. François Ier n'a aucunement l'intention de faire de Léonard de Vinci un peintre dédié aux portraits de cour. Son projet est à la mesure de son ambition, qui est démesurée. Il veut donner à son règne une portée universelle. Par sa mère, Louise de Savoie, il a été instruit des prophéties en tout genre qui parsèment la Bible et les écrits religieux médiévaux. Il voue une dévotion particulière à saint François d'Assise et à saint François de Paule. Il ne doute pas un seul instant de sa vocation à rayonner sur le monde. Il connaît les compétences d'ingénieur de Léonard de Vinci. Aussi, lorsqu'il l'accueille à Amboise au printemps 1516, il lui expose d'emblée tous ses projets. Parmi eux, il y a la construction d'un immense palais du côté de Romorantin, la ville de son enfance. Installé au château de Cloux, Léonard jouit d'une pension royale, d'une écurie, de plusieurs chevaux, pour se rendre à Blois, Paris, Fontainebleau, Saint-Germain, et la direction de tous les artistes du royaume. Comme le dit son biographe Vasari, il est en un mot surintendant des beaux-arts avant la lettre. Dans les semaines qui suivent son arrivée, on se presse pour rencontrer l'artiste. On copie sa manière de s'habiller. À la cour, les hommes imitent sa coupe de barbe et de cheveux. Léonard de Vinci, pourtant, peine un peu à se mettre au travail. Il ne peint pas, ou très peu. Il est vrai qu'un accident vasculaire l'a privé de l'usage de sa main droite. Mais il a ses assistants qui peuvent dessiner pour lui. Il passe ses journées à accompagner le roi à la chasse en forêt. Emporté, comme de coutume, par l'ouragan de son génie, il entreprend de faire assécher les marais qui entourent le domaine. Un projet en chasse un autre. Cet homme qui, comme le disait le pape Léon X, ne pouvait rien achever, parce qu'il commençait toujours par ce que d'ordinaire on termine, va multiplier les esquisses pour assainir le domaine de Romorantin. C'est des premiers mois de sa présence au château de Cloux que datent les notes qu'il prend pour construire le grand palais auquel rêve François Ier. Ce dernier tient absolument à le placer à Romorantin. Sa mère a vécu là. On est au centre de la France. L'idée du roi est de faire édifier un immense domaine qui rayonnerait vers toutes les directions. Il nous est resté de ce rêve pharaonique des fragments de plans laissés par Léonard de Vinci. On y voit un ensemble architectural d'où partent des canaux qui, comme des rayons de soleil, touchent à tous les horizons. Inspiration typique de l'artiste toscan. Il ne pouvait envisager l'univers que par le mouvement. Le canal est l'incarnation de cette idée que toute vie est échange et passage. Tandis que l'on s'affaire pour commencer les travaux, François Ier multiplie les festivités. Il met à contribution le génie de Léonard de Vinci pour leur donner tout l'éclat qui convient à sa puissance. En avril 1517, il organise plusieurs jours de réjouissance à l'occasion du baptême de son fils et du mariage de Laurent de Médicis. On déroule une immense tenture au-dessus des parcs où sont représentées toutes les étoiles du ciel. 72 jeunes filles sont déguisées par douzaines à l'italienne, à l'allemande et selon diverses coutumes du monde. Des flambeaux, des torchères sont disposés par centaines qui donnent l'impression du jour en pleine nuit. Léonard de Vinci participe à la reconstitution de la bataille de Marignan, clou du spectacle. On érige un décor imitant des remparts, on creuse des douves. Des figurants croisent le fer, imitant les combats d'une manière si réaliste que des femmes dans l'assistance sont saisies de malaise. Des bombardes ont été disposées sur les hauteurs pour faire tonner la poudre et ajouter au réalisme du spectacle. Tout cela ne se fait pas sans dommage. Certains chroniqueurs parlent de blessés et même de morts. Mais, en fin de compte, on s'en retourne chez soi, profondément impressionné.
Le passe-temps ne plut pas à tous, car il y en eut beaucoup de tués et d'affolés. Cela fait, on se départit, ce qui fut chose malaisée à faire. Et eût été bien pire si chevaux et gens n'eussent été hors d'haleine, car tant qu'haleine dura, ils combattirent.
Au milieu du banquet, on fait apparaître des automates, conçus comme les bombardes par Léonard. On se presse pour voir le vieillard à barbe blanche lorsqu'il apparaît pour vérifier tel ou tel détail de l'organisation. Lors de ses journées à Amboise, Léonard de Vinci rencontre tout ce que l'Europe compte de savants, d'artistes et de mages. En ces années du début du XVIe siècle, ont lieu les premiers colloques avant la lettre. Léonard dessine des projets de machines. Il étudie les mécanismes d'engrenage, les propriétés de certains enduits pour conserver les peintures. Il pratique l'anatomie, sa passion. Il semble qu'il soit peu apparu au milieu de ces réjouissances juvéniles qui étaient le quotidien du domaine. Il préfère l'étude, le silence, la méditation.
Le roi vient à Amboise ouvrir sa cour clandestine. La reine n'y est pas, mais les maîtresses y sont. On joue à l'amour, on joue aux cartes, on festoie, on danse. Léonard donne-t-il des dessins pour ces tournois d'un genre particulier ? Vient-il, par sa gravité, apporter une note de mélancolie dans ses chansons gauloises ? Léonard traversait bien vite ces manifestations de la jeunesse. Il ne voyait le roi qu'aux heures studieuses et ne s'attardait le soir qu'avec les pâles visions de sa solitude.
Dans le château de Cloux, entre deux notes consignées à la hâte sur le papier, il fait peindre par ses élèves, sur les murs du grand salon, des arabesques et des salamandres sur fond d'or. La salamandre, animal emblématique de François Ier, est devenue la mascotte de celui qui était déjà connu pour son amour des lézards et des dragons. Tandis que décline le jour et que s'achève la vie du maître Léonard de Vinci, François Ier entreprit la construction du château de ses rêves. Quelle forme va-t-il prendre? Quelle marque du génie de Léonard va-t-il conserver? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la deuxième partie de cet épisode.